Viens, Esprit, nous visiter. Viens, Esprit, nous vivifier. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur. Tu nous sanctifies. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de vérité. Viens, Esprit de charité. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de Esprit de Dieu, souffle le feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, nous rassembler. Viens, Esprit, nous embraser. Viens, Esprit, nous recréer. Viens, Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies.
Donc le psaume 118, 11. Si vous tenez jusqu'au bout, vous obtiendrez la vie. Usé par l'attente du salut, j'espère encore ta parole.
Usé d'attendre tes promesses, j'ai dit quand vas-tu me consoler.
Devenu comme une outre durcie par la fumée, je n'oublie pas tes commandements.
Combien de jours ton serviteur vivra-t-il? Quand jugeras-tu mes persécuteurs?
Des orgueilleux ont creusé pour moi une fosse, au mépris de ta loi.
Tous tes ordres ne sont que fidélité, mensonges mes poursuivants, aide-moi.
Ils ont failli m'user, me mettre à terre. Je n'ai pas abandonné tes préceptes.
Fais-moi vivre selon ton amour. J'observerai les décrets de ta bouche.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Pour les siècles des siècles. Amen.
Dans les Actes des Apôtres, les apôtres, en sortant du grand conseil, repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient cette bonne nouvelle, Jésus est le Messie.
Prions. Seigneur Maître du monde, nous te supplions humblement, permet que l'apôtre saint André, après avoir évangélisé et guidé ton Église, ne cesse d'intercéder pour nous. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Amen. Bénissons le Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
Donc cet après-midi, nous allons regarder la règle de perfection. Comme je dis, il y a une ou deux autres œuvres, comme le Chevalier chrétien, par exemple, mais si on peut en parler, on en parlera, mais je pense qu'on aura beaucoup de temps. Première chose à propos de la règle, eh ben, on ne va pas reparler de l'histoire des différentes éditions, parce que c'est toute une histoire, ce qu'a de dire. Donc il nous paraît plus important, bien sûr, de dégager les aspects principaux de l'œuvre. Et donc, je vais m'inspirer surtout Ce matin, je me suis servi beaucoup du petit livre de Renaudin. Cet après-midi, je me servirai surtout du livre de Soé et du texte lui-même de la règle. Alors, premier point, l'intention de Benoît dans ce travail. Alors, il ne s'agit pas pour lui de proposer un nouvel exercice d'oraison ou de piété, surtout qu'il y en a beaucoup déjà qui existaient à l'époque, notamment émanant des carmistes et des carmes, etc. Ce qu'il va essayer de mettre à la disposition des lecteurs éventuels, c'est, dit l'ami Soé, un exercice simple, praticable dans tous les états de vie. C'est ça qui le souciait beaucoup. Pas, ne pas faire qu'un truc pour les moines, voilà. Et qui conduisent, alors, ça c'est ambitieux, en peu de mois, ceux qui le pratiquent assidûment, à la perfection de la vie chrétienne. Alors il expose, Benoît, son intention dans l'épître aux lecteurs, c'est la citation numéro 1. « Amis lecteurs, il y a deux voies pour entrer en Dieu, l'une par la spéculation, l'autre par l'abnégation. La première est plus agréable. » Mais l'autre est plus profitable. La première a beaucoup de complaisance, l'autre de la solidité et d'assurance. La première n'est pas prouvée de tous, encore qu'on ait bonne volonté. L'autre est ouverte à tout bon désir. Cette présente règle enseigne plutôt la seconde que la première. Et pour ce, ne te décourage pas. Si tu ne trouves de beaux discours, qui souvent plaisent plus à l'oreille, qu'ils ne profitent à l'âme. Mais apporte ici simplement, seulement, un bon désir. Et tu y trouveras le chemin ouvert au ciel. Alors l'itinéraire qui est proposé va privilégier, donc c'est clair, le désir et la bonne volonté, puisque le désir et la bonne volonté sont accessibles à tous. Le chemin par spéculation, c'est plutôt celui de Saint Bonaventure dans l'itinéraire de l'esprit en Dieu, qui privilégie l'intellect en laissant sa part à la volonté, mais privilégiant l'intellect, puisque Bonaventure est quand même un théologien. Celui de Benoît va privilégier la bonne disposition de la volonté sans exclure l'intellect. Il s'inspire ici de saint Paul, au Corinthiens chapitre 12, verset 31. « Je vais vous montrer une voie qui les dépasse toutes. » Bon, c'est un grand texte sur la charité. Et dans Jean 1, 4, 7, « Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Tout simple. Alors, Soé commente « La voie de l'amour est la voie solide et assurée. L'abnégation proposée est correspondance au commandement de Dieu pour accéder justement à l'amour et elle est ouverte à tous. » La problématique de l'œuvre. J'aime pas beaucoup le mot problématique, mais là c'est juste. Que la plupart du temps, maintenant, dans les médias, on vous entend, il y a une problématique, ça veut simplement dire qu'il y a un problème. On dit que la problématique, c'est la manière de poser les problèmes. C'est pas la même chose. Benoît la résume, cette problématique, par une gravure que vous avez, qui constitue un véritable portail pour entrer dans l'exercice. C'est une sorte de synthèse théologique qui rappelle un peu la vision de la création par saint Hildegard de Bingen. Est-ce qu'il a le tu as la gravure, Jean-Claude ?
Oui, j'ai la gravure. Là-dessous.
Cette gravure présente deux tableaux. Il y a un tableau au-dessus et un tableau au-dessous. Et avec tout en bas un verset d'évangile qui peut s'appliquer aux deux tableaux. Non pas ma volonté, que non pas ma volonté soit faite, mais la tienne. Le tableau du bas représente l'agonie du Christ à Gethsémani, on le voit assez, avec en arrière-plan l'arrivée de la cohorte de ceux qui viennent l'arrêter, hein, qui veulent l'arrêter avec Judas en tête. Voilà. Alors celui du haut est très différent. On va commencer par celui du haut. Il s'agit d'une sorte de soleil, on le voit, entouré de trois cercles concentriques où figurent les visages qui reçoivent la lumière du soleil. Ce disque lumineux représente, dit Benoît, la volonté de Dieu qui illumine et réjouit les âmes des fidèles. Les visages sont de taille différente en fonction de leur éloignement respectif par rapport au centre du cercle. Les plus proches sont les plus petits, mais ils sont baignés de lumière, plus que les grands. Alors, ces trois cercles illustrent en réalité les trois parties de la règle. Les âges les plus éloignés sont entourés d'outils de travail, pioches, pelles, faux, fourches, serpes, marteaux, etc. Ils représentent les âmes qui sont engagées dans la vie active, c'est-à-dire celles qui correspondent à la première partie de l'ouvrage qui va traiter de la volonté extérieure de Dieu. Donc vie active, volonté extérieure de Dieu. Le deuxième cercle, il est accompagné des mots contemplativa, voluntas et interior, c'est-à-dire contemplative, volonté intérieure. Il s'agit des âmes qui, dans la vie contemplative, s'exercent à la volonté intérieure de Dieu et en conséquence reçoivent plus de lumière que les précédents. Et alors, évidemment, les troisième cercle, les âmes du troisième cercle sont accompagnées des mots essentialis, essentiel, et perfecta, parfait. Il s'agit des âmes qui s'exercent à la volonté essentielle de Dieu, à ce qui est parfait. Ces trois degrés, d'après Benoît, correspondent à la tripartition que saint Paul établit dans l'Épître aux Romains, citation numéro 2, Romains 12, 2. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de votre jugement, de sorte que vous reconnaissiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. À travers cet itinéraire, l'âme va se défaire progressivement de l'obscurité qui est celle de sa volonté propre pour s'approcher de la lumière resplendissante qui est la volonté de Dieu. Et c'est bien ce qu'affirme Benoît à la fin du premier chapitre de la première partie de la règle. Le terme de l'itinéraire est identifié, c'est joli citation, à une immersion dans la mer. Donc c'est la citation 3. Et comme cette volonté de Dieu est semblable à la mer, ainsi l'obscurité de notre propre volonté ressemble à la terre. Et comme celui qui est au milieu de la terre ne voit point la mer, ainsi celui qui est au milieu de l'obscure et propre volonté ne voit point cet océan céleste. Plus que la terre est spacieuse où on se trouve, et plus on est éloigné de voir la mer. De même, plus grande qu'est cette propre volonté, et plus on est éloigné de voir cette volonté de Dieu. Là où la mer gagne la terre, il ne se voit rien que mer. Et là où la volonté divine surmonte la volonté propre, il n'y a rien que la divine. À mesure que la mer inonde la terre, et celle-ci disparaît, et celle-là se voit en place. Pareillement, la volonté de Dieu submergeant la propre volonté, celle-ci s'évanouit pour donner place à celle-là. S'il n'y avait point de terre pour tout, il n'y aurait rien que mer. Et si nous n'avions aucune obscurité de propre volonté, nous ne verrions rien que la volonté de Dieu. Finalement, celui qui est en pleine mer ne voit point de terre, ni aussi celui qui s'est retiré en la profondeur de cette volonté ne voit point de ténèbres, ainsi en toute chose, mais en toute chose. En tout temps et lieu, voit cette céleste lumière, brillante étoile et rayonnant soleil, comme en la troisième partie cela sera montré. Fin de citation. Alors le premier tableau montre, donc ce premier tableau, le duo, montre la transformation de l'âme, son passage des ténèbres à la lumière. Le soleil central, évidemment le symbole de la lumière divine, que manifeste aussi la résurrection du Christ. Soleil levant, qui vient nous visiter, ainsi qu'on le chante dans l'Exultet au matin de Pâques. Sohé ajoute que cette image est aussi manifestée par les ostensoirs en forme de soleil qui sont fabriqués au cours du XVIe et XVIIe siècle, qui n'étaient pas avant. Au centre de ce premier tableau se trouve, vous l'avez reconnu, le tétragramme du nom de Dieu révélé à Moïse sur le Sinaï. Yod et Vav et. Ce nom est un prénom imprononçable pour les Juifs. Et même, je peux ajouter que si on se trouve devant des Juifs vraiment observants, et qu'on dit Yahvé, alors là, ils se mettent la main devant les yeux, c'est très grave. Ah oui, ça m'est arrivé, alors je veux dire. devant les, avec des gens qui lisaient. On était des gens, on s'initiait avec un professeur d'hébreu, et voilà, quelqu'un a lu Yahvé, alors là, le rabbin qui était là, mon Dieu, blasphème, voilà. Donc, c'est un nom qui est imprononçable. Dans le buisson ardent a été manifestée la volonté de l'Éternel d'arracher son peuple aux ténèbres de l'Égypte. Le soleil est donc le symbole de la divinité dans l'entièreté de son mystère, c'est-à-dire de la transcendance divine. Ça va, vous n'êtes pas encore endormi? Ça commence, bon. Le tableau du bas, maintenant. Il montre l'agonie du Christ, modèle et source de l'obéissance à Dieu. Son visage, le Christ, est nimbé d'une auréole de lumière. L'ange qui se présente à Jésus lui indique, je ne sais pas si on le voit bien, mais il l'indique, la volonté du Père. La main levée du Fils représente son acceptation. L'autre main montre à l'homme en arrière la décision qu'il doit prendre à sa suite. Accepter comme le Fils la volonté du Père. Jésus invite l'homme à entrer dans le mystère de son obéissance à cette volonté du Père. Les deux tableaux sont les deux faces de la même réalité lumineuse, à savoir cette volonté divine. Concluant cette analyse, le frère Soé écrit « Tout l'art de la règle de perfection sera donc de décliner l'unique et très simple point, unique et très simple point de la vie spirituelle, faire la volonté de Dieu dans toutes les situations et étapes qu'il va traverser. » La phrase latine inscrite en dessous des deux tableaux résume l'ensemble. « Non mea voluntas, et tua fiat. » « Que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Luc 22. La péricope de Luc en ce lieu, à laquelle il est fait référence, donc l'agonie du Christ, nous révèle ce combat intérieur qui est mené à son paroxysme. La lutte entre la terrible frayeur humaine de Jésus et sa volonté divine unie à celle du Père. Aux trois apôtres qui sont accablés de sommeil et qui ne peuvent pas prier. On sait qu'on les voit, oui, ils y sont. Oh, mais ils y sont. Ah oui, derrière, ils sont derrière. Oui, oui. Oui. Ben oui, ils font dodo, là, oui, d'accord, oui. Ah oui, la cohorte vient en haut, là, oui. Voilà, aux trois apôtres accablés de sommeil et qui ne peuvent pas prier avec lui, la signification de la théophanie du Tabor, c'est les mêmes qui étaient au Tabor, donc ils auraient dû comprendre. Mais ils ne comprennent pas encore, ça leur échappe. En exergue de sa règle, Benoît a fait figurer un verset du psaume 29. Vita in voluntate tua, la vie dans ta volonté, qui est conforme à toute la tradition biblique et monastique. Pour saint Paul, nous le savons, pour moi, vivre, c'est le Christ, Philippiens. Ou encore, Galates 2, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Pour saint Bernard, et là c'est une citation de saint Bernard à propos de la vie contemplative, c'est la citation 4. Le premier degré de la contemplation est en effet celui-ci très cher, que nous considérions ce que veut le Seigneur, ce qui lui plaît, ce qui est agréable à ses yeux. Et puisque tous nous l'offensons en beaucoup de choses, et ce qu'il y a de tordu en nous offense en lui la droiture de la volonté, il ne peut ni s'unir, ni s'attacher à lui. Humilions-nous sous la main de Dieu puissant et très haut, et qui nous fait, nous qui sommes misérables, soyons tout à fait soucieux de nous présenter sous les yeux de sa miséricorde en disant « Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Et ceci, Seigneur, prends pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. » En effet, après que l'œil du cœur a été purifié, soyons tournés non pas avec amertume vers notre esprit, mais plutôt avec grande délectation vers l'Esprit de Dieu. Plus que la volonté de Dieu sur nous, contemplons la volonté de Dieu en elle-même. Un sermon de saint Bernard. Jean-Louis Soé estime que tout cela ne fait que, je cite, confirmer l'influence de Bernard de Clairvaux sur saint François d'Assise, et sur la spiritualité franciscaine. C'est un chemin abrégé. Ah, pardon, franciscaine. Ouais. En somme, ce que va proposer Benoît, c'est un chemin abrégé, en réduisant la vie spirituelle à un seul point, l'adhésion à la volonté de Dieu. C'est donc une dynamique simple de la vie chrétienne. C'est là, dit Soé, retrouver la simplicité et la radicalité des évangiles, la simplicité et la profondeur de la tradition franciscaine et capucine. Ou encore, c'est la citation 5, le but est simple, même s'il peut s'exprimer selon plusieurs registres. Vivre selon l'Esprit, suivre le Christ et être uni à lui, accomplir la volonté du Père. Le terme du cheminement spirituel est identifié. En toute chose, plaire à Dieu, en imitant l'obéissance du Fils, selon la motion du Saint-Esprit, en résumé, faire la volonté de Dieu. La problématique générale de la règle de perfection peut donc être résumée ainsi. Il s'agit d'accompagner le lecteur, à quelque point qu'il soit de la vie spirituelle, vers une union plus étroite avec le Christ, par l'accomplissement de la volonté du Père, dans la motion de l'Esprit Saint. Une citation. Alors, on continue avec le paragraphe sur la volonté extérieure dans la vie active. La volonté extérieure est fondée sur des principes qui ne concernent pas seulement les commençants. Et ça, il insiste beaucoup là-dessus, c'est tout au long qu'il faut surveiller tout ça. Mais ça concerne le plus grand nombre. Il dit, ces principes concernent également ceux qui atteignent les sommets de la vie mystique. Si le Seigneur leur en a fait la grâce, le Fils de Dieu lui-même s'est soumis à la loi, c'est-à-dire aux 10 commandements, voilà. Je ne suis pas venu abolir la loi, dit Jésus, mais l'accomplir, Matthieu 5. À Gethsémani, il aurait pu s'enfuir, comme les disciples, mais il a choisi d'accepter la passion et la mort de la croix parce qu'il a discerné que c'était la volonté du Père. L'entraînement à obéir par amour à la volonté du Père, qui est l'objet de la première partie de la règle, est une sorte de vademecum d'une vie chrétienne authentique. La recherche de consolation ou la recherche de privilèges mondains est évidemment contraire à celle-ci. Dans cette première partie, il s'agit donc premièrement de s'entraîner à discerner la volonté du Père et deuxièmement, très important, de la mettre en pratique. En fait, la clé d'interprétation de toute la règle est cachée dans la partie en question. Il faut procéder à une lecture soigneuse pour la dégager. Et voilà ce que dit Soé, citation 6. La volonté de Dieu extérieure constitue véritablement le centre de l'exercice. Le lecteur y apprend comment connaître infailliblement la volonté de Dieu et comment s'y conformer dans un juste équilibre entre activité et oraison. Benoît présente les différents aspects de cette volonté extérieure en suivant une méthode commune aux dialecticiens et rhétoriciens de la période. Petit a, définition de la volonté extérieure. Petit b, indication comment la connaître et la pratiquer. Petit c, quels sont les points particuliers de l'exercice de cette volonté extérieure, mortification, vertu, imitation de la passion du Christ. Petit d, un moyen particulier pour entrer progressivement dans l'exercice. Oui. Ensuite, équilibre entre action et contemplation. Puis, l'oraison, moyen indispensable à toutes les étapes. Et puis, conclusion générale de cette première partie. Alors, si vous prenez la table des matières, vous verrez tout ça qui se succède par chapitre. Voilà. Donc, en regardant les chapitres, on voit comment ça procède. Alors, au beau milieu de tous ces éléments qui font à chaque fois l'objet d'un chapitre particulier, donc que vous pouvez voir sur la liste, Benoît présente l'échelle qui va permettre de progresser dans cette volonté extérieure de Dieu. Alors, premièrement, la définition de la volonté extérieure de Dieu et quel est le processus à suivre pour la discerner. Ça va, personne ne dort encore ? Bon. Évidemment, Benoît n'est pas le premier à réfléchir sur cette phrase du Notre Père, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Mais il est le premier à proposer une tripartition pratique de cette volonté de Dieu en volonté extérieure, intérieur et essentiel, fondé sur la citation paulinienne qu'on a lue tout à l'heure de 1 Corinthiens 12. Mais il la réinterprète en fonction de la progression qu'il veut proposer à l'âme, c'est-à-dire un parcours systématique d'intériorisation de la volonté divine. L'échelle de la vie spirituelle, beaucoup d'auteurs en parlent. Et par exemple, Saint Benoît, il la divise en 12 degrés d'humilité. 12 degrés d'humilité. Mais Benoît, lui, dans la règle, distingue 6 degrés d'approfondissement de la volonté extérieure et 5 de la volonté intérieure. C'est classé, hein. Et ça monte de plus en plus vers la volonté essentielle. Mais le préalable à cet approfondissement, c'est avant tout le suivant, citation 7 tirée du texte de Benoît. Donc, la volonté de Dieu extérieur est le divin plaisir connu par la loi et la raison, étant la règle de toutes nos pensées, paroles et œuvres en la vie active. Dans la même page, il en indique le fondement biblique. Il parle du psaume 15, verset 2, 51, verset 3, et 7, Matthieu 19, 17, 20. On pourrait le regarder sur l'amandier quand on sortira. Dans ce dernier texte de Matthieu 19, les commandements de Dieu sont même énumérés par Jésus. On s'en rappelle à la demande du jeune homme riche. C'est quoi la volonté de Dieu, dit le jeune homme riche. Et Jésus lui récite les commandements. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Vous l'avez la citation 8. Hein. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Après les commandements de Dieu, viennent pour Benoît la loi de l'Église, puis pour les religieux, la règle, les constitutions et les statuts de l'ordre, et ensuite le commandement des pasteurs et des prélats, celui des princes, celui des pères et mères, la loi des magistrats, l'ordonnance du père de famille, et enfin ce qui correspond au statut social ou la qualité ou condition de la personne. Par exemple, est-ce que vous êtes un seigneur, vous êtes un maître ou valet, est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous êtes célibataire, est-ce que vous êtes ecclésiastique, est-ce que vous êtes religieux, est-ce que vous êtes laïque. Pour chacun de ces 9 niveaux de la volonté extérieure, Benoît fournit une citation biblique à l'appui. Ça va ? Je sens que... C'est un peu dur à suivre, non ?
Non.
Il oui, faut le dire. Hein. Lorsque pour un cas concret, les commandements n'indiquent pas la marche à suivre, parce que les commandements ne disent pas toujours comment faire, dans un sens ou dans un autre, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Utiliser sa raison. Ou, c'est ce que nous faisons en général, avoir recours à l'aide de personnes pieuses, savantes et de bon jugement pour discerner la volonté divine. C'est dans la première partie, chapitre 6. De toute manière, il faut toujours appliquer la règle de la pureté d'intention, à savoir celle de faire la volonté de Dieu. Et en cela, Benoît se situe dans la ligne de saint Augustin, qui développe ce sujet également dans son commentaire de la première lettre de saint Jean. Ceci dit, il ne suffit pas de connaître la volonté divine, il faut aussi la mettre en pratique. C'est ça qu'on sait qui est le plus difficile. Voilà. Alors donc, le trône de Salomon, on va parler de Salomon, le trône de Salomon, lieu de l'union avec le Christ. Dans les chapitres 8 à 13 de la règle, Benoît accompagne pas à pas le lecteur dans l'exécution de cette volonté extérieure de Dieu, et il la figure par 6 degrés, 6 degrés à gravir dans l'accession au trône de Salomon. Citation 9. De la page 172 de la règle, le roi Salomon fit aussi un grand trône d'ivoire, et il le recouvrit d'or reluisant, lequel avait 6 degrés. Et le haut du trône était en la partie de derrière, et 2 mains d'un côté et de l'autre tenant le siège, et 2 lions se tenaient près de chaque main, et 12 petits lions étant sur ces degrés d'un côté et d'autre. Tel ouvrage n'a pas été fait en tous les royaumes. Fin de citation. Le but à atteindre, c'est, on l'a déjà dit, la pureté et la perfection d'intention. Accomplir en tout la volonté de Dieu dans la seule intention de lui plaire. Sceau est dit par cette distinction, les courbures sont découvertes et successivement et peuvent être rectifiées au fur et à mesure. Là, Benoît s'inspire en partie de l'itinerarium Mentis in Deum de Bonaventure, mais il va l'adapter à sa manière. Celui-ci fait de Salomon la figure du Christ annonçant et donnant la paix, une paix qui surpasse tout et que lui seul peut donner. Salomon, on le sait, c'est l'homme de paix, hein, Salem, Salomon. Pour Benoît, le trône de Salomon, Salem ou Shalom, signifie la sagesse et la paix durable accordées par Dieu à ses serviteurs, sagesse et paix qui se confondent avec l'expérience de l'union au Christ. Alors, selon Soé, c'est dans cette accession au trône de Salomon que se trouve le cœur de la mystique de Benoît de Canfield. Jésus-Christ, qui a bon droit, s'attribue ce nom de Salomon, qui signifie sacrifique, pacifique, puisqu'il fait la paix dans l'âme lorsqu'il dit demeure. Voilà. Alors maintenant, quels sont les 6 degrés du trône de Salomon, puisque on monte par 6 degrés. Chaque degré est signalé par un adverbe, en partant de la base vers le sommet. Ça donne en bas, actuellement. En 2, uniquement. On va le voir, on voit après. En 3, volontairement. En 4, assurément. En 5, lèrement. Et en 6, promptement. Et naturellement, au sommet de cette progression, se figure que Soé fait une pyramide pour le faire comprendre, se situe paix, union au Christ. Alors bon, je n'ai pas suivi en détail l'analyse que Soé mène sur une 60aine de pages. Mais seulement donner un aperçu. De même que nous ne pourrons qu'aborder en conclusion, je l'ai déjà dit d'ailleurs, la troisième partie de la règle qui concerne la volonté essentielle et dont Jean-Louis Soé lui fait l'économie parce qu'il estime, comme je viens de le signaler, que le cœur de la mystique de Benoît se trouve exposé dans les deux premières parties. La fin, c'est être complètement absorbé en Dieu, quoi. Le premier degré, alors actuellement, qu'est-ce que ça veut dire actuellement ? Actuellement, ça veut dire concrètement, effectivement, en ce moment. Agir dans la volonté de plaire à Dieu, sortir de l'oubli de Dieu, ou n'agir que par habitude. Ça, c'est pas bon non plus, d'agir que par habitude. Même en matière de religion, il ne suffit pas d'aller à la messe régulièrement, de réciter, et ne pas tomber non plus dans des rêveries d'imagination, de contemplation, alors qu'on n'est pas contemplatif, ou à l'autre extrême, alors aussi dit dans les scrupules, les gens qui sont des scrupules. Citation 10. La volonté de Dieu prend visage concret d'agir, de résister ou de pâtir dans l'instant présent. C'est ainsi que l'aujourd'hui de l'éternité de Dieu s'unit mystérieusement à l'aujourd'hui du temps des hommes. Donc c'est assez beau, c'est que c'est maintenant que l'éternité de Dieu peut s'unir, de façon mystérieuse, à l'aujourd'hui de notre temps à nous. Le deuxième degré, uniquement, signifie tout simplement faire le tri entre les différentes intentions que l'on a en s'attachant à faire la seule volonté de Dieu. L'homme peut accomplir des actes bons, mais s'il le fait avec des intentions mauvaises ou imparfaites, il perd le bénéfice du bien agir. Voilà ce que dit Benoît, page 182. Il s'agit de redresser l'intention. C'est même, selon Soé, la réalité centrale de la règle de perfection, l'outil unique opérant la purification de l'âme qui la prépare à accueillir la lumière divine. Ainsi, Benoît se tient-il dans la simplicité de la sixième béatitude, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Il faut comprendre à cette étape que Dieu ne se donne pas moins dans la vie active que dans la vie unitive, car Dieu ne peut que se donner entièrement. Alors, c'est une chose très réconfortante de penser, quel que soit.
On le reçoit différemment.
Voilà, c'est ça. On le reçoit différemment. Mais Dieu, lui, se donne tout entier. Il n'y a pas de. Voilà. En fait, les différences entre vie active, vie unitive et vie suréminente ou essentielle, c'est exactement ce que tu as dit, ne se trouvent que dans la capacité de l'homme à recevoir la lumière divine et le don de l'Esprit Saint. Le troisième degré de la parfaite intention, volontairement, concerne la manière d'accomplir l'œuvre dans la seule volonté de Dieu, de la faire joyeusement et volontairement. Cela correspond sans doute à l'expérience de conversion de saint François, dit-il, dans sa rencontre avec le lépreux, qu'il rapporte dans son testament. dans le testament, donc François dit, ce qui était pour moi amer s'est transformé en douceur de l'âme et du corps. Expérience que Benoît rappelle à la page 242 de la règle. Benoît évoque aussi dans ces pages les obstacles à l'accomplissement de la volonté divine et il rappelle un passage de la règle franciscaine établie par le fondateur. C'est la citation 11. Et ils, c'est-à-dire les frères, doivent se réjouir quand ils vivent parmi des personnes viles et méprisées, parmi des pauvres et des infirmes, et des malades et des lépreux, des mendiants le long du chemin. Benoît rappelle qu'il faut se méfier d'une fausse contemplation, qui détournerait notamment les religieux de faire des travaux manuels. Il faut qu'ils continuent. Ou ne pas se rendre régulièrement à l'office. Ça, c'est très grave aussi. Le quatrième degré de parfaite intention, assurément, est défini comme suivi par Benoît. C'est la citation 12. Le quatrième degré de ce trône de parfaite intention ou volonté de Dieu est assurément, ou une assurance dont elle doit être munie et fortifiée, qui est que, lorsqu'on a dressé son intention de faire l'œuvre pour la seule volonté de Dieu, qu'on croit assurément que c'est cette même volonté. Page 194 de la règle citée par Soué. Benoît va citer quatre causes qui peuvent produire de dommageables doutes ou hésitations. Et il va proposer des remèdes. Premier doute, les incertitudes qu'on peut avoir dans une action indifférente. Savoir comment choisir, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais. Réponse, l'œuvre doit suivre l'intention et non l'inverse. L'intention d'accomplir la volonté de Dieu, ça va bien. Et l'inverse, c'est pas bon. Deuxième point, une fausse croyance selon laquelle Dieu n'aurait pas d'estime pour les petites choses. Ça, je trouve, c'est très franciscain. Il n'aurait pas d'estime pour les petites choses. Réponse, Dieu mesure l'œuvre à partir de l'intention. Et Benoît, pour ça, cite Colossiens 3, 7, « Quoi que vous fassiez en parole ou en action, faites toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et au passage, il mentionne aussi le commentaire de saint Augustin sur le psaume 146. Bon, troisième cause, elle survient, elle survient dans l'accomplissement d'actions agréables à la sensualité, comme le manger et le boire. Réponse, Benoît cite à nouveau saint Paul, 1 Corinthiens 10, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, que vous fassiez quelque autre chose, faites tout à la gloire de Dieu. Seul importe l'intention. Et Benoît cite à nouveau le commentaire d'Augustin sur le psaume 146, en particulier ce passage où Augustin dit « Tu loues Dieu quand tu prends ta réfection, autrement dit ta nourriture. Quand tu manges, quand tu bois, tu le loues quand tu te reposes dans ton lit. Tu le loues même quand tu dors. » C'est bon pour certains d'entre nous, au moins pour tous, quasiment pour tous. La quatrième cause concerne les choses pour lesquelles l'homme pourrait éprouver quelque honte. Réponse, il n'est pas de choses si basses ou si viles qui, une fois illuminées par le soleil de la divine volonté, puissent détourner l'âme de la présence de Dieu. Il fait référence au texte de Paul où il dit mais nos membres les moins visibles, là, ils vont, etc., etc. Bon, il ne faut pas avoir honte, simplement. Voilà. L'âme fait à ce quatrième degré, dit Benoît, l'expérience d'une nouvelle force qui vient soutenir son combat, l'espérance théologale. Et l'espérance théologale ne vient pas de l'âme, mais de l'Esprit-Saint. Esprit-Saint qui lui permet d'entrer plus profondément, plus fermement, dans les mystères de la volonté de Dieu. Elle commence à approfondir cette volonté et à l'expérimenter comme étant, et là c'est très important pour Benoît, le terme « l'Esprit et la vie ». L'Esprit et la vie est le vrai paradis de l'âme. Cette expression apparaît, on le sait très bien, en Jean 6, 63, dans le discours sur le pain de vie, c'est-à-dire dans un contexte concernant l'Eucharistie. Saint François lui-même l'emploie à son tour pour montrer que l'on passe de cette façon à une réalité spirituelle et non plus charnelle. Voici ce qu'il dit en effet dans son testament. Et tous les théologiens et ceux qui administrent les très saintes paroles divines, nous devons les honorer et les vénérer comme ceux qui nous administrent l'esprit et la vie. Zoé commence ceci. Bon, c'est la citation 15, oh non, 13. Citation 13. Parvenu au quatrième degré du trône de la parfaite intention, l'âme commence à expérimenter, comme l'a fait le séraphique Père François, que c'est l'Esprit du Seigneur qui lui donne la vie, commençant à l'introduire dans la vie trinitaire. Devenu capucin, William Fitch, frère Benoît, a voulu suivre le Christ en tout, comme Saint François. Il se rappelle la prière du Saint d'Assise devant la croix de Saint Damien. Donc ça c'est la citation 14. Dieu très haut et glorieux, illumine les ténèbres de mon cœur et donne-moi la foi droite, l'espérance certaine et la charité parfaite, le sens et la connaissance, Seigneur, pour que j'accomplisse ton commandement saint et véritable. C'est dans le testament de François. Au quatrième degré, l'âme parvient à reconnaître par pure grâce que c'est Dieu qui agit ou souffre en elle quand elle accomplit sa volonté en droite intention de lui plaire. L'âme atteint alors, d'après Benoît, le simple regard. Cette conformation au Christ qu'ont vécu beaucoup de saints mystiques, par exemple au XVIIe siècle, le frère Laurent de la Résurrection, qui parle de la prière de simple regard. Mais cette expérience, mais cette expérience n'est pas, selon Benoît, réservée aux moines et aux mystiques, mais à tous ceux qui accomplissent une action bonne ou prononcent une parole bonne, avec l'unique intention, citation 16, avec l'unique intention de plaire à Dieu en toutes choses. À travers les dons et charismes diversifiés que l'Esprit Saint accorde aux uns et aux autres, c'est Dieu qui opère toutes choses en tous. 1 Corinthiens 12, verset 6. Enfin, le 17, le 5e et 6e degré, à savoir clairement et promptement, sont ceux auxquels l'âme se trouve conduite en tout par l'Esprit Saint. L'âme épouse, qui est donc l'épouse, s'identifie à l'époux divin, s'identifie à l'attitude de la Vierge Marie, qui est la créature parfaite, mère de l'Église, épouse du Christ. Il n'est donc pas surprenant dans cette condition que Benoît utilise à nouveau, pour illustrer cela, le dialogue entre l'époux divin et son épouse, que l'on peut lire dans le Cantique des Cantiques. C'est très développé dans...
Il y a un
3. Ça, ça ah, ben normalement, il y a un 3, oui.
On n'a pas les 3. On a le 1, 2.
Oui. Ah non, non, ça s'arrête au 2.
Ça s'arrête au 2.
Non, parce qu'après, vous allez voir, ça repart 1, 2.
Oui.
Voilà. Ça, c'est la fin de la première partie.
Ah, d'accord.
Avec la conclusion, l'âme est prête, comme nous, à entrer dans la vie illuminative.